dis-moi maintenant. Donc je pense que nous avons perdu assez de temps. Je t'aime, tu m'aimes, pour moi c'est évident. Stop le préservatif et prenons du bon temps. Cesse de me dire dès que je m'approche de toi.
N'y pense même pas.
Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi.
N'y pense même pas.
Pense même pas. Comme à chaque année, mesdames, messieurs, Potpourri Show s'associe avec plusieurs partenaires locaux et étrangers pour marquer la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème de cette année, connais ton statut, afin de mettre en lumière la manière dont l'éducation complète à la sexualité aide les jeunes à prendre des décisions plus saines pour leur vie, y compris celle de connaître le statut zérologique, VIH. Selon les estimations, 14% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne savent pas qu'elles en sont atteintes. Comment accélérer les services de dépistage? Quels sont les groupes, les personnes à risque? Dimanche 2 décembre, dimanche prochain, on en parle avec nos invités. Des témoignages, joignez-vous à la liste de nos partenaires ONU SIDA, RFI, France 24, TV5, l'association Action Traitement à Paris, France, Cathy à Toronto, et si vous souhaitez y participer ou nous parrainer, nous aider, c'est simple, potpourri@cut.fm. Dimanche prochain, 2 décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. On se donne rendez-vous.
Provincial issue, but Ontario's recent cuts to French services is stirring up a lot of emotion here on Parliament Hill. The Minister of Official Languages is calling the cuts a cheap shot against the 600,000 people in Ontario who identify as French-speaking. So what more can the federal government do, or what are they willing to do? Are the feds considering an intervention?
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Eh oui, bonjour mesdames, messieurs, et bien le bonjour à ceux qui nous écoutent dans la région du nord de la province de l'Ontario. Ils sont à North Bay, Sudbury, à Timmins. Ah oui, ils sont nombreux à Ottawa aussi. Un gros merci à Monsieur Jolin qui sera des nôtres dans quelques minutes. Nous avons aussi des personnes qui nous écoutent à Montréal, à Penetanguishene, à Ottawa. Bien le bonjour à Québec, à la ville de Québec et le maire de Québec. Et Montréal, bien le bonjour, et aussi des gens à Port-au-Prince, Kigali, nous avons des gens qui nous écoutent à Rennes, en Bretagne, à Plougastel plus précisément, ainsi qu'à Paris. On vous dit bien le bonjour, vous écoutez Potpourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde, jusqu'à 13h sur www.cut.fm. L'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Deborah, je remercie aussi Monsieur Ballant ainsi que professeur Daniel Issa Sayeg. Merci pour votre concours la semaine dernière et tous les invités, les auditeurs, auditrices et tous ceux et celles qui ont contribué au succès de notre levée de fonds. Nous sommes rendus près de 61 000 dollars, madame, monsieur. Et je vous rappelle que vous avez encore jusqu'à la semaine prochaine pour émettre votre don en direct sur www.cut.fm. Et je vous rappelle que nous avons plusieurs cadeaux, plusieurs surprises qui vous attendent grâce à nos partenaires, y compris Cineplex Canada, qui vous offre plusieurs billets pour aller voir la dernière pièce de la comédie française qui se joue en ce moment à Toronto. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui sont avec nous en studio. Ils sont de la cité collégiale avec le professeur, l'homme qui porte plusieurs chapeaux, monsieur Gilles Marchildon. Cela me fait plaisir de vous avoir. Bonjour.
Ben, le plaisir est réciproque. Ça me fait plaisir d'être ici.
Et comment va Reflet Salvéo?
Reflet Salvéo se porte très bien. On continue notre travail dans le domaine de la santé.
Très bien. On se parle tout à l'heure, ces jeunes qui se préparent actuellement. C'est bien, merci beaucoup de cette collaboration. En ce dimanche 25 novembre, le menu du jour, madame, monsieur, aux couleurs de la résistance, bien sûr, avec tout ce qui se passe. Vous suivez sans doute l'actualité, monsieur Marchildon. Où sont et qui sont ces journalistes francophones en herbe qui nous rendent visite aujourd'hui? Ils sont des étudiants, étudiantes de la cité collégiale, campus de Toronto. Et avec leur facilitateur, professeur Gilles Marchildon, nous allons entendre peut-être quelques brèves actualités du jour, internationales, nationales et peut-être locales, n'est-ce pas? Et oui, la résistance et manifestations pour le 1er décembre s'organisent. Pourquoi pas devant Queen's Park, me dit un auditeur. Qui sont ces ignorants au pouvoir, d'après Madame Denise Bombardier? Quel avenir pour Amanda Simard, la députée conservatrice de Glengarry Prescott Russell, dans l'Est ontarien? Plus que jamais, hashtag nous sommes, nous serons. Et notre invité aujourd'hui, monsieur Carole Jolin, le batailleur, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, sera des nôtres. Stéphanie Chouinard, la héroïne francophone correspondante de cette émission, professeure adjointe de sciences politiques au Collège militaire royal, sera aussi des nôtres dès midi. La rentrée littéraire 2018-2019 avec notre partenaire édition Prise de Parole. Nous aurons une présentation d'une nouvelle et très belle poésie, recueil de poésie d'un revenant. Longtemps, j'ai porté mes deuils comme des habits trop grands. Vous allez voir, c'est assez poétique, mais en même temps, c'est dramatique. Alors, le poète, dramaturge, romancier, nouvelliste Stéphane Sénac sera des nôtres. Et pour nous joindre tout au long de l'émission, c'est le 416-946-7000 ou encore POT pourri, oui, popourri@cut.fm. Popourri Show, 32 ans déjà. L'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Les buzz de nos médias partenaires, le Canada a repris les expulsions d'Haïtiens vers leur pays d'origine. C'est dommage, après avoir annoncé leur suspension mercredi dernier en raison de la récente flambée de violence dans ce pays. Au Canada, les réactions des éditorialistes anglophones se sont faites plus audibles cette semaine concernant les coupures annoncées le 15 novembre dernier par Doug Ford, Premier ministre de l'Ontario, dans les services aux francophones de la province. En France, essoufflement du mouvement des Gilets jaunes un peu partout. Et oui, par contre, dégradation, violence. Il y a eu des coups hier sur les Champs-Élysées. Deux journalistes portent plainte contre des manifestants. Marine Le Pen et le gouvernement s'accusent mutuellement des violences sur les Champs-Élysées hier. Je rappelle que le président Macron fera une annonce mardi prochain aux Français. Un plan écologique avec les tops des experts sera présenté. À l'île de la Réunion, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent à Maurice et à la Réunion et l'île Rodrigue. Le mouvement des Gilets jaunes se poursuit malgré une accalmie hier. L'île de la Réunion, toujours sous couvre-feu en ce moment et des vols ont été reportés et les avions doivent faire escale à l'île Maurice pour s'approvisionner en kérosène. En Haïti, crise sociale et politique, les manifestations se poursuivent depuis dimanche 18 novembre pour réclamer un procès dans le scandale de corruption Petrocaribe et pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse, président haïtien. Plusieurs objets de mécontentement se conjuguent pour créer une situation très confuse dans ce pays. Quelles sont vos réactions avec tout ce qui se passe en Haïti, avec l'expulsion des Haïtiens du Canada? Envoyez-nous vos messages à popourri@cut.fm. Les buzz de la semaine en Ontario. Et oui, sortie en règle de la journaliste anti-franco-ontarienne Denise Bombardier dans le journal La Presse cette fin de semaine. Veut-elle se faire pardonner ou attire-t-elle de la sympathie à son égard? L'ignorance au pouvoir, écrit-elle, titre son papier, et je cite, « Nous sommes condamnés désormais à ce que des ignorants nous gouvernent. » Selon elle, Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, ignore l'histoire des deux peuples fondateurs. C'est fort. Nous avons reçu beaucoup de réactions, des fois très dures, de la part des auditeurs suite à l'émission de dimanche dernier. Nous ne sommes pas des moutons, on ne va pas se laisser faire. Caroline Mulroney doit démissionner. Il y a eu aussi beaucoup de messages assez haineux, je trouve, anti-francophones sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez des liens, des adresses, des sites web à nous suggérer, on fera le point de tout ça très prochainement. Et il y en a d'ailleurs beaucoup de francophones qui aimeraient y participer. popourri@cut.fm. Et nous sommes et nous serons ensemble. Nous garderons notre place. Hashtag respect franco. Et oui, coup de télé vendredi soir, le gouvernement Ford rétablit certains services en français, mais la FAO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, en réclame davantage. La résistance s'organise, les 40 actions citoyennes prévues le 1er décembre prochain auront toujours lieu. La députée progressiste conservatrice de Glengarry Prescott Russell, Amanda Simard, s'ajoute à la liste des frondeurs du gouvernement de M. Ford. Elle est parmi les invités à l'émission Tout le monde en parle ce dimanche à la télé de Radio-Canada. Qui est-elle? Va-t-elle peut-être franchir le camp, changer de camp? On verra bien. Elle a une réunion avec ses élus cette semaine, avec ses élus, mais aussi des gens de sa circonscription dans l'Est ontarien à 13h aujourd'hui. Amanda Simard s'est exprimée publiquement mercredi dernier contre son gouvernement. Et je vous rappelle qu'il y aura aussi Diane Adam, la présidente du Conseil de planification de l'Université de l'Ontario français, et l'avocat spécialisé en droit linguistique Ronald Caza et Marie-Pierre Héroux, coprésidente du regroupement étudiants franco-ontariens, seront à l'émission Tout le monde en parle. Pour une fois, on parle des franco-ontariens. Et à notre grande surprise, la FAO et son président, M. Carole Jelin, ne figurent pas parmi la liste des invités. C'est dommage. Pour faire le point sur les dernières nouvelles du mouvement de résistance, nous avons le plaisir, mesdames, messieurs, d'accueillir en exclusivité le président réélu de l'Assemblée de la francophonie, M. Carole Jelin, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à l'émission. Je sais que vous êtes très occupé ces temps-ci. Il y a cette tuile qui vous est tombée sur la tête, mais aussi sur la tête de plus de 600 000 francophones en Ontario. Comment vous vous portez ces jours-ci?
Ça a été une semaine très, très occupée. On pourrait utiliser l'expression. C'est tout un mois que j'ai eu cette semaine. Ça a été extrêmement occupé, évidemment, moi, de mon côté, beaucoup d'entrevues médiatiques, réunions ici et là, j'ai eu l'occasion de parler à Mme Joly à quelques occasions, on a rencontré M. Scheer, le leader du parti PC au niveau fédéral, donc plusieurs bonnes discussions, évidemment, de nombreuses entrevues médiatiques, plusieurs de celles-ci au Québec, donc c'était très très bien de voir l'intérêt du Québec pour la situation et également les médias anglophones ici en Ontario.
Avant de parler justement de l'intérêt des médias anglophones, mais aussi des francophones hors Ontario, et je dirais même à travers le monde, hein, j'ai reçu moi des appels, des messages des Français, des gens de la Belgique, de l'Afrique francophone, de l'île Maurice. Les gens ne comprennent pas trop ce qui est en train de se passer ici en Ontario. Alors, parlez-moi un petit peu de votre position face à, aux propositions de M. Ford vendredi dernier. Parce que là, il veut rétablir le ministère des Affaires francophones.
Exactement. On a salué l'ouverture du gouvernement M. Ford de rétablir le ministère des Affaires francophones qu'il avait lui-même aboli en début de mandat, parce qu'on se souviendra que les libéraux on était passé de l'Office des Affaires francophones à un ministère. C'était déjà en juillet 2017. Et puis ça avait été annulé aussi que M. Ford a pris les reins. Et puis là, il va ramener le ministère des Affaires francophones. Ça, c'est une chose. Un autre élément qu'on avait demandé, c'est d'avoir une agente ou un agent de liaison dans le bureau du premier ministre, une personne francophone, avec qui on puisse dialoguer et puis qu'on puisse avoir l'oreille du premier ministre au niveau des dossiers francophones. Et ça, c'est une promesse que M. Ford avait faite pendant la campagne électorale qu'il y aurait quelqu'un. Donc, content d'entendre que cette promesse-là va être remplie. Maintenant, pour ce qui est des deux autres dossiers au niveau de l'indépendance du commissariat aux services en français, on n'est pas du tout d'avis que le commissariat ait à se rapporter à l'Ombudsman, que c'est une bonne chose, il perdrait son indépendance. Donc, pour nous, on demande le statu quo dans ce domaine-là, c'est-à-dire que le commissariat est toujours un organisme totalement indépendant et qui ne se rapporte qu'à la chambre, qu'à Queen's Park. Ensuite,
J'aimerais qu'on fasse un peu le point là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de mes amis francophones qui disent, ben tu vois, c'est pas si mal, finalement ils seront chez l'Ombudsman et puis les deux peuvent faire des enquêtes, peuvent rétablir les situations là où on voit qu'il y a des manques de services en français. Mais or, ce qu'on oublie, ce qu'on n'explique pas assez, c'est que le mandat de l'Ombudsman, comparable au mandat d'un commissaire, c'est tout à fait différent.
Effectivement, c'est totalement différent. L'Ombudsman va recevoir les plaintes, il va faire les enquêtes. Ça, c'est son mandat. Le mandat du commissaire va au-delà de ça. Il va recevoir les plaintes, c'est vrai. Mais il va travailler beaucoup avec les ministères, par exemple, pour leur rappeler leur responsabilité en fait de service en français. Il va faire la promotion de l'offre active auprès de ces ministères-là. Avec son équipe, il va faire des recherches dans différents domaines qui vont permettre de faire avancer le service en français. Et de ça, si je vous donne par exemple, il y a 6 ou 7 ans, le commissaire avait publié un document qui concernait l'offre de programmes postsecondaires dans la région de Toronto. Le document s'appelait « Pas d'accès, pas de futur ». Et puis, c'est ce document-là qui a fait qu'on en est aux États généraux. Et les États généraux ont pavé la voie à la création de l'Université de l'Ontario français. Donc, ça vous donne une idée du type de recherche que le commissaire peut faire justement pour promouvoir les services en français. Et si on a des entités de planification en santé aujourd'hui, on peut dire merci au commissaire qui avait publié un document à ce niveau-là et qui avait recommandé une structure comme telle pour pouvoir justement s'assurer que les francophones avaient de bons services en français dans les régions désignées.
Et il y a tout un travail d'éducation, de sensibilisation, je dirais même proactive, un travail proactif auprès des ministères, des gens qui sont des coordonnateurs de services en français dans les ministères, pour s'assurer que justement ils aient les moyens, les outils pour offrir des services de qualité. Et ce que l'Ombudsman n'aura pas assez de temps pour faire tout ce travail, n'est-ce pas?
Exactement, parce que le commissaire est l'autorité morale, en fait, de service en français dans la province de l'Ontario. Et M. Boileau était très, très visible dans la communauté aussi pour renseigner les gens, informer les gens sur leurs droits. Et pour tout le respect que j'ai pour M. Dubé, qui est le responsable de l'Ombudsman, c'est pas dans son mandat et son assiette était déjà pleine. Et puis là, on voudrait ajouter encore davantage à ses responsabilités.
Il y a aussi toute cette histoire, excusez-moi de vous interrompre, mais il y a aussi toute cette histoire du budget. Alors, si on voulait sauver des sous, On coupe le ministère des Affaires francophones, on coupe le bureau ou le poste de M. Boileau, le commissaire des services en français. Et or là, on propose un ministère à nouveau des services en français, des Affaires francophones, et le poste de M. Boileau rattaché au bureau de l'Ombudsman. Où est l'économie dans tout ça, M. Carole Jolin? Est-ce que vous comprenez quelque chose?
Bien, la mathématique n'est pas tellement difficile. Il n'y en a pas d'économie. Donc, de ça, c'est pas avec des économies de bout de chandelle qu'on prévoyait réaliser que le gouvernement va être capable de s'attaquer à son déficit. Il va falloir que les bouchées soient beaucoup plus grosses que de faire des choses comme ça, puis pas au dépens des services en français, parce que le gouvernement a la responsabilité de l'épanouissement de sa minorité francophone et doit s'assurer que ces services sont là. Et les services en français font partie de cet épanouissement-là. Et
alors, il y a eu un revirement, d'habit de la part d'une personne qui avait fait parler d'elle lors d'une émission à Tout le monde en parle, pour ne pas citer son nom, Denise Bombardier. Et aujourd'hui, elle vient à la défense des Franco-Ontariens en disant que M. Ford ne connaît pas l'histoire. Et il y a beaucoup, beaucoup de francophones d'ailleurs, et des anglophones, des francophiles aussi, et des journaux anglophones qui disent que cette décision a été prise à la sauvette sans penser à l'impact que ça allait avoir à travers le pays.
Je suis très d'accord. Initialement, on a pensé que je peux pas me mettre dans la tête du gouvernement, là. Mais comme on voit très souvent, c'est une petite crise qui va passer dans 2 ou 3 jours. Et après ça, on va passer à autre chose. Et l'impact que ça a maintenant, c'est plus une question de l'Université de l'Ontario français. C'est plus une question du commissaire. C'est une question de droit. C'est une question d'attitude vis-à-vis la francophonie. Et puis, c'est pour ça qu'on a des appuis en Ontario, partout au Canada et à l'étranger, des gens qui, je reçois toutes sortes de témoignages de gens de l'étranger qui nous appuient. Et puis, de ça, c'est une question d'attaque envers la francophonie. Et toute la planète, toute la planète, parce qu'on reçoit des témoignages de beaucoup d'endroits à l'international, les gens sont outrés, les gens sont frustrés, les gens sont fâchés de voir qu'on s'attaque comme ça à des services en français.
Parlez-nous un petit peu de cette relation qui se tisse maintenant, qui se trame entre l'Ontario et le bureau du maire, la Baume, du Québec. Il a fait quand même des gestes assez extraordinaires, ainsi que la mairesse de Montréal. Est-ce que vous avez reçu une lettre d'appui?
Oui, ce sont des gestes qui sont très, très significatifs. J'ai reçu la lettre de M. Labeaume. Je sais que la lettre de Mme la mairesse de Montréal est en route. Ce sont des appuis qui sont très, très importants. Et pour continuer, justement, cette pression sur le gouvernement ontarien. Et puis, on a vu une ouverture vendredi à vouloir dialoguer. On a lancé quelques modifications, mais restez que les deux dossiers principaux qui nous intéressent, le commissaire aux services en français, on veut que ce soit un commissariat indépendant et on veut que le dossier de l'Université de l'Ontario français se poursuive et qu'on soit prêt à ouvrir en 2020.
Alors, je rappelle aux gens que... Oui, ben allez-y.
Ceci étant dit, vous avez parlé de M. Labeaume. J'ai eu un appel de M. Labeaume cette semaine. Mm-hmm. Et puis, il veut s'impliquer, il veut venir nous rencontrer, il veut venir manifester son appui. Parce qu'on sait qu'il est président des villes francophones aussi. Et puis, ça, pour lui, c'est extrêmement important qu'on continue à revendiquer les droits des francophones. Et puis, c'est pas juste pour, comme je le disais, c'est une question d'attaque à la francophonie. Et on connaît l'attitude de monsieur ou les valeurs de monsieur Labeaume à cet effet-là. Et puis, c'est très intéressant d'avoir une personne qui ne va pas par quatre chemins pour vous dire ce qu'il pense et qui est très, très influent et aimé au Québec. Donc,
il y a aussi, d'ailleurs, on pourra faire une autre émission avec vous là-dessus parce que cela m'inquiète de voir qu'il y a cet esprit, ce vent anti-francophone au Nouveau-Brunswick, dans d'autres territoires, provinces, y compris en Ontario. On a vu passer sur les réseaux sociaux toutes sortes de messages, je dirais même presque haineux. Il y a même hier soir, selon Radio-Canada, il y a un jeune francophone qui s'est fait tabasser par un groupe d'anglophones. Ça commence à déraper, là. On risque de se retrouver avec eux contre nous, nous contre eux. Et c'est pas ça le Canada qu'on aime, qu'on aimerait y habiter, y vivre, n'est-ce pas?
Non, effectivement, ce ne sont pas les valeurs canadiennes. Et puis, de ça, dans un premier temps, l'appui qu'on a de partout pour l'Ontario est également un appui qu'on va être capable de retrouver pour le Nouveau-Brunswick lorsqu'on se retrouvera lorsque les francophones ou la francophonie se retrouvera dans une situation difficile. Et c'est pas rose-rose non plus au Manitoba.
Je sais. Donc, alors, parlez-nous un petit peu rapidement. Les gens s'organisent. Il va y avoir 40 manifestations citoyennes à travers la province. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi ne pas faire une manifestation monstre devant Queen's Park? Pourquoi dans les régions partout éparpillées à travers l'Ontario? C'est samedi prochain, le 1er décembre, n'est-ce pas?
Effectivement. Pourquoi on a choisi 47? Initialement, on en avait 30, et puis les gens ont communiqué avec nous, qu'on dit, on veut qu'il y ait quelque chose dans notre région, on est prêt à se mobiliser, donc on a ajouté 10 au titre. Mm-hmm. On va principalement cibler les bureaux des députés du Parti conservateur, donc l'impact que ça va avoir, que les élus voient les gens de leur circonscription venir manifester en avant de leur porte et leur dire qu'est-ce qu'ils pensent exactement. On espère et je compte sur cet impact-là pour que ces députés-là retournent à Queen's Park après et aillent parler avec les gens de leur caucus et puissent mettre la pression pour que justement on revienne sur ces décisions-là. L'impact va être beaucoup plus multiple si on frappe à plusieurs endroits que si on frappe à un seul.
Alors, je rappelle que les gens peuvent aller sur le site de monassemblée.ca et s'inscrire. Et là, ils vont recevoir automatiquement les alertes, mais aussi les mises à jour. Vous avez votre petit triangle vert et blanc déjà?
Non, je suis pas allé du côté du triangle vert et blanc encore. Je sais que ça commence. Il y en a qui ont J'ai un petit macaron qui a été fait sur la résidence. Ouais. J'ai eu le premier qui a été mis en ligne d'ailleurs, et puis que je porte fièrement lorsque je donne des entrevues. Ouais. Donc pour ça, toutes sortes de façons de manifester notre appui. Et puis il y a toutes sortes d'initiatives locales qui sont sorties un peu partout en province. Et je salue ces initiatives-là. Tout ce qu'on peut faire pour se rallier et puis dire à ce gouvernement-là, bien revenez sur votre décision parce que nous autres, on n'a pas l'intention de reculer.
Hashtag nous serons, allez sur le site www.monassemblée.ca. Monsieur, pourquoi vous n'êtes pas à Tout le monde en parle ce soir?
Initialement, il y avait eu cette possibilité-là, mais ce que les dirigeants de l'émission nous ont dit, c'est qu'ils ne voulaient pas avoir quelqu'un d'une association.
Ah, oui.
Ils voulaient avoir des gens qui représentaient la communauté. Exemple, Marie-Pierre Héroux, qui va être là, qui est une militante convaincue qui était avec la FESFO, qui est maintenant avec le REFO. Ronald Caza, qui est bien connu pour avoir été un des principaux artisans de la solution de Montfort. Diane Adam, qui avait écrit toute la question pour le conseil de planification de l'université. Donc, on a des très bonnes personnes qui sont là. Et à ne pas oublier, la députée de la Scott Russell, du Parti conservateur.
Alors ça, c'est très intéressant. Hein? D'ailleurs, vous allez la rencontrer peut-être à 13h aujourd'hui. Tenez-nous au courant, parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est quand même un élément très important dans tout ce cirque qui se déroule en ce moment à Queen's Park. J'ai des antennes, j'ai des sources. Je sais qu'il y a au moins 7 à 8 personnes, candidats, députés plutôt, ou ministres du caucus de M. Ford qui sont très, très, très fâchés. Même il y en a certains qui ont dit, pensent même à démissionner ou à siéger comme indépendants. C'est grave, là, ce qui est en train de se passer. Alors, je sais aussi que M. Mulroney a téléphoné à sa fille, Mme Caroline Mulroney, la semaine dernière, a même téléphoné au bureau du Premier ministre. Alors, il y a toutes sortes de tractations qui sont en train de se passer. Qui sait, peut-être on aura une belle surprise d'ici quelques jours.
Bien, j'espère bien. Sinon, s'il faut... j'ai toujours dit on veut régler cette situation-là par la discussion, mais si on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas de possibilité, eh bien à ce moment-là, les recours juridiques sont toujours là. Ouais. Donc j'espère qu'on ne se rendra pas là, mais on fait le travail.
Hashtag nous sommes, nous serons, www.monassemblée.ca. Bonne chance et tenez-nous au courant. Bon courage et merci pour tout le travail que vous faites. Et encore une fois, félicitations d'être réélu président de mon Assemblée de l'Ontario. Un grand merci pour tout ce que vous faites. Voilà. Tous les étudiants
merci,
vous applaudissent. À bientôt, au revoir. Bon dimanche.
Au revoir.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
CIUT 89.5 is the only community station left on the FM dial in Toronto. Thanks to our generous supporters, we continue to be the sound of your city. Don't worry if you haven't donated yet. There's still time to qualify for the round-trip ticket for two to Reykjavik, Iceland. You have until December 31st. Visit www.ciut.fm and click donate.
CIUT 89.5, Toronto.
Écouter est la plus grande des qualités. Écouter les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct. Et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.potpourrishow.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, madame, monsieur, cette demi-heure est réservée à nos jeunes, les jeunes talents, les journalistes en herbe de la cité collégiale. Et c'est en partenariat avec l'Atelier des médias de Radio France Internationale, une émission de radio et un réseau social à l'écoute de l'innovation de la société numérique et des révolutions dans le monde des médias. Vous aussi venez découvrir nos histoires, reportages et entretiens. Et si vous le souhaitez, vous pouvez y participer en soumettant un sujet ou une rubrique. Écrivez-nous à l'adresse suivante, potpourri@cut.fm. Et j'ai justement Gilles Marchildon qui anime, qui enseigne cours, je pense, qui est assez... C'est une formation, un cours intensif, hein?
Voilà, c'est un cours intensif. C'est quand même un plein crédit, c'est 42 heures, réparties sur deux week-ends, samedi, dimanche, de 9h à 18h, avec en plus 6 heures d'études autonomes dirigées.
Alors, qui c'est qui a dit que les jeunes ne sortent pas le samedi et le dimanche? Alors, et ils sont plusieurs qui sont avec nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe dans ces exercices que vous travaillez, que vous proposez à ces jeunes?
Il y a plusieurs composantes. Évidemment, il y a une partie du cours qui est constituée en présentation plus magistrale, des sujets que j'aborde avec eux en salle de classe. D'autres parties, bon, on a eu l'occasion, comme un des premiers travaux, c'était de participer à un événement pendant la campagne d'élection municipale. Le groupe a participé à un événement de la candidate Jennifer Keesmaat et par la suite ont rendu une analyse de cet événement.
Alors donc, les jeunes sont ici, ils ont fait leurs devoirs, j'imagine, ils sont là depuis quelques temps. Et nous avons Jimmy, Patrick, Marius et Jira. Et je vais juste parler rapidement pour voir un petit peu de quel bois il se chauffe. Par exemple, Jimmy, pourquoi es-tu intéressé à faire de la radio ou encore à t'insérer dans le milieu journalistique?
Bon, c'est en fait parce que j'aime le secteur, j'aime le travail du journaliste. J'ai essayé de faire ce travail en Afrique parce que je viens exactement de la République démocratique du Congo. J'ai travaillé pendant quelques années comme journaliste. Et une fois au Canada, je voulais me lancer directement dans ce secteur, mais c'était pas facile pour moi. Quand vous allez toquer des portes, ils veulent voir aussi que vous avez de l'expérience, oui, mais de l'expérience canadienne, c'est ce que je n'avais pas. Voilà pourquoi je me suis décidé de me lancer en ça, apprendre comment ça se passe exactement ici au Canada et puis tenter de voir si je serai... Peut-être j'aurai la possibilité de travailler dans l'avenir ici.
On ne sait pas qui est à l'écoute, hein, on ne sait jamais. D'ailleurs, oui. Vous allez nous parler de sujets à l'échelle internationale et entre autres, ça m'intéresse particulièrement parce que ça fait assez la manchette cette semaine. Mm-hmm. Restitution d'œuvres par la France. Alors ça, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Et on va passer à Patrick rapidement. Patrick, tu vas nous présenter aussi des nouvelles, entre autres sur ce missionnaire américain tué. C'était cette semaine?
Il y a deux semaines de
semaine
cela.
De cela, oui.
Dans les îles d'Adama.
Et qu'est-ce qui t'attire à la radio, à faire de la radio, du journalisme?
Ce qui m'attire à faire, cela va faire peut-être 10, 15 ans que je suis dans les médias. Mm-hmm. Je fais plutôt de la photographie, des vidéos et... Ce qui est intéressant avec la radio, c'est que c'est un monde, comme vous disiez vous-même, un monde irréel, où c'est plutôt la voix, c'est plutôt l'ambiance. Et puis aussi, ça permet de pouvoir, dans ce monde où tout va trop vite, ça permet à quelqu'un de s'asseoir, d'écouter et de pouvoir continuer à faire son travail.
Est-ce que vous écoutez de la radio vous-même? Vous regardez les émissions en langue française? Vous avez des émissions de choix que vous préférez? Je ne vais pas vous demander, ce n'est pas un test, hein, mais est-ce que vous regardez des médias francophones?
Oui, je suis les médias francophones, plutôt les médias écrits.
Oui.
Les médias, au niveau de la radio, il y a vous, il y a Popourri. Et il y a aussi...
On est très honorés. Hein.
Et puis, il y a aussi dans la communauté, maintenant, il y a beaucoup de petites radios Internet qui permettent encore de garder le français en Ontario. Parce que ce qu'on oublie, c'est que petit à petit, on enlève ce français de l'Ontario.
Marius, toi aussi, tu vas nous présenter 5 minutes sur des nouvelles concernant justement ce qui est en train de se passer, tramé dans la communauté francophone.
Ah oui, je vais le faire parce que vous savez, la radio a toujours été pour moi depuis le très jeune âge un loisir, un monde. J'ai été façonné par un éminent journaliste sur France Inter qui s'appelait Jacques Chancel.
Ah oui.
Et j'ai suivi presque toutes ses émissions, allez-y comprendre quelque chose. Et chez moi au pays, en RDC, à l'époque, c'était la République du Zaïre, il y avait des éminents journalistes.
Le grand échiquier de Jacques Chancel.
Oui, le grand échiquier de Jacques Chancel.
Et les jeux de 1000 francs. Et vous avez entendu les jeux des 1000 francs.
Ah oui. Et tout ça.
Moi aussi, j'ai grandi avec ces émissions. C'est incroyable, hein, c'est fou.
Ça me fait vibrer le sang. Hein,
c'est que les gens ne comprennent pas. En Afrique, on n'a pas tellement de distraction, et des fois dépendant dans quel pays, quel coin du continent qu'on se trouve, la radio, le transistor même, petit transistor.
Sincèrement.
C'est un compagnon.
Il a fait son affaire, ça je vous dis sincèrement, à ce qui m'écoute.
Transistor Philips que j'avais.
Les grandes connaissances que j'ai, eh ben, je les ai retenues à partir de
Alors,
Jacques Sancel.
Merci beaucoup Marius, et on va passer à Soumia. Qui va aussi nous présenter 5 minutes, 3 minutes, je pense, sur les services de santé mentale. Sujet très intéressant, très
oui,
important.
Oui, merci bien et bonjour. Je viens de Maple Vaughan et maintenant j'étudie le journalisme avec Biconeg dans la City. Et c'est vraiment c'est un honneur pour moi aujourd'hui.
Et vous parlez français à la maison, vous vivez dans un milieu francophone. Quelle est votre émission de télé ou de radio préférée?
Généralement, oui, mes parents sont bilingues. J'utilise le français avec mes parents, mes sœurs dans la maison. Mais mes segments préférés, ce sont des segments de santé, toujours, parce que j'ai un background de médecine et de sciences. Et j'ai ajouté le journalisme parce que ça donne un grand boost pour connecter avec les gens et tout ça.
Alors, merci beaucoup. Alors, merci. On va passer rapidement. Magneto, on est prêt avec Jimmy, Patrick, Marius et Soumia. Et donc, on y va. L'actualité nationale et internationale avec les journalistes en herbe de la Cité collégiale. Jimmy.
Essentiel de l'actualité internationale de la semaine, bonjour et bienvenue à tous. On commence avec ce nouveau rebondissement dans les dossiers du journaliste assassiné dans l'ambassade saoudienne. La France a annoncé cette semaine la mise en place des sanctions contre 18 ressortissants saoudiens impliqués dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Ils seront interdits d'accès au territoire français ainsi qu'à l'espace Schengen. Les personnes concernées ont désormais interdiction de se rendre en France et dans l'espace Schengen, a fait savoir les Quai d'Orsay. Il s'agit de mesures conservatoires susceptibles d'être revues ou étendues en fonction de l'avancée des investigations en cours. Et il dit dans le même communiqué du ministère des Affaires étrangères cité par l'agence Reuters, la Turquie mène sa propre enquête sur cet assassinat. Le 31 octobre dernier, le procureur général d'Istanbul a annoncé que dès son arrivée au consulat, Jamal Khashoggi avait été tué par strangulation, son corps ayant par la suite été démembré. Il a souligné le caractère prémédité de ses crimes. Aux USA, les autorités américaines ont lancé une vaste campagne pour dissuader des entreprises de téléphonie mobile et d'accès à Internet dans des pays alliés d'utiliser les équipements du chinois Huawei Technology, de crainte de donner à Pékin un accès à des informations sensibles, affirme vendredi le Wall Street Journal. Des responsables gouvernementaux américains ont eu des réunions sur le sujet avec des homologues et des dirigeants d'entreprises de télécoms dans des pays où Huawei est déjà très implanté comme l'Allemagne, l'Italie ou encore le Japon, indiquent les quotidiens qui citent des sources anonymes et en connaissance du dossier. Les États-Unis envisagent également de fournir une aide financière aux pays qui choisiraient de développer leur réseau sans avoir recours aux Chinois. L'une des principales inquiétudes, selon ces sources, réside dans la sécurisation des communications des installations militaires américaines à l'étranger, comme en Allemagne, en Italie et au Japon, où les militaires font usage de réseaux de communications locaux, même s'ils disposent des moyens propres pour les échanges les plus sensibles. Cette initiative, qui reflète les inquiétudes qui prédatent largement l'administration Trump, risque d'ajouter encore aux tensions déjà vives entre les deux pays, que ce soit sur le plan commercial ou militaire. L'actualité en Afrique, réunie depuis le 9 novembre dernier en Genève en Suisse, les 7 principaux leaders de l'opposition congolaise s'étaient finalement parvenus à mettre d'accord sur une candidature unique commune à la présidentielle du 23 décembre au terme de longues tractations. Mais l'accord n'a duré que 24 heures puisque 2 des 7 opposants ont par la suite retiré leur signature. Il s'agit de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Grosse déception donc pour la population congolaise qui espérait en cet accord de coalition, rejeté malheureusement par les autres et qui ont une semaine après décidé de se coaliser. Et c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, qui a annoncé vendredi dernier s'est désisté de la course à l'élection présidentielle du 23 décembre pour former un ticket avec un autre poids lourd de l'opposition qui est Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe a annoncé s'est désisté de la course à l'élection présidentielle pour apporter son soutien à Félix Tshisekedi. Et de son côté, Félix Tshisekedi, qui s'est félicité de l'accord, a expliqué que l'une des priorités du duo sera de restaurer la paix dans l'est du pays. Il a aussi appelé ses partisans à venir en nombre pour accueillir les tickets gagnants de cette élection présidentielle qui rentre à Kinshasa les mardis prochains. Information en bref, retenez aussi toujours en République démocratique du Congo que 13 nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés dans la partie est de la RDC où l'épidémie de la maladie à virus Ebola a déjà fait 219 morts selon le ministère congolais de la Santé. Cette épidémie risque donc de perturber le processus électoral en cours, à savoir la date des élections est prévue pour le 23 décembre prochain. Ensuite, avec ces titres qui nous amènent au Gabon, la santé du président Ali Bongo. Depuis le 24 octobre dernier, le président gabonais est hospitalisé à Riyad suite à un malaise. Les spéculations sont allées dans tous les sens quant à la santé du chef de l'État et surtout quant à la gravité des décès dont il souffre. Selon donc les informations apportées par Jeune Afrique, le chef d'État gabonais va quitter l'Arabie Saoudite pour un établissement spécial de Londres où son épouse Sylvia Bongo Ondimba dispose d'une résidence. Il y a quelques jours, le porte-parole du gouvernement a annoncé que le président retrouvait progressivement la plénitude de ses facultés physiques, reconnaissant implicitement la gravité de l'état de santé d'Ali Bongo. Voilà qui met fin à ces tours d'horizon de l'actualité présentée par l'étudiant Jimmy Mavouba. Restez à l'écoute de la 89.5 FM.
Atelier des médias. Aujourd'hui, nous recevons des jeunes de la cité collégiale.
Bonjour. En international, un Américain tué par une tribu indienne. John Shaw, qui se voyait un missionnaire, voulait briser la bulle dans laquelle vivait une tribu particulièrement vulnérable et exclue, en leur apportant un message d'évangélisation. Âgé de 27 ans, il a été tué par le peuple des sentinelles qui l'ont transpercé de flèches quand il a voulu débarquer pour les convertir au christianisme. Il avait été informé pourtant par les autorités que toutes les intrusions étaient illégales. Il était interdit de s'approcher au moins de 5 kilomètres de l'île. Du fait de la fragilité de cette tribu, le corps de John Shaw pourrait ne jamais être récupéré. Les spécialistes des droits tribaux estiment qu'aucune accusation ne pourra être déposée contre les membres de la tribu, qui est probablement la dernière datant du pré-néolithique. D'une surface équivalente à la moitié de Paris, l'île de North Sentinel se situe à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Port Blair, capitale du territoire indien des îles d'Andaman et Nicobar. Selon l'ONG Survival International, les Sentinelles descendent des premières populations d'Homo sapiens à être partis d'Afrique et vivant aux Andamans depuis 60 000 ans. Leur population est estimée à ce jour à 150 âmes. En Ontario, le gouvernement Doug Ford élimine le projet de l'université franco-ontarienne et le commissariat aux services français. Le gouvernement de Doug Ford a mis fin au projet de la création de l'Université de l'Ontario français, une décision motivée par les défis financiers de la province. Le gouvernement a aussi dissous du même souffle le commissariat aux services en français. Le traitement des plaintes sera désormais une responsabilité de l'ombudsman de la province. Doug Ford et sa ministre de l'Éducation supérieure, Mireille Fullerton, rompent ainsi leur promesse d'aller de l'avant avec la création de l'Université francophone à Toronto. Ces mesures étaient dissimulées dans l'énoncé économique du ministre professeur des Finances, Victor Fedeli. Les économies réalisées ne sont pas encore chiffrées, ainsi la loi sur les services en français est modifiée pour transférer les pouvoirs du commissariat aux services en français à l'Ombudsman de l'Ontario. Poste Canada. Les sénateurs débattent de la loi spéciale du retour au travail. Le projet de loi spéciale forçant les quelques 50 000 employés de Poste Canada à pour retourner au travail est à l'étude au Sénat où il ne fait pas l'unanimité. Le projet de la loi C89 a été adopté aux communes dans la nuit du vendredi à samedi par une majorité de 166 contre 43. Il doit être ratifié par le Sénat avant d'obtenir la sanction royale. Les sénateurs, selon une source citée par CBCCA, sont un tout petit peu partagés. Deux sénateurs indépendants ont envoyé une lettre à la ministre fédérale du Travail, Patricia Ajdou. Dans cette lettre, Diane Griffin et Frances Lanken se demandent si cette loi n'enfreindra pas la Charte canadienne des droits et libertés qui stipule la liberté d'association est une liberté fondamentale. Les syndiqués de Postes Canada ne baissent toutefois pas les bras. L'adoption de la loi spéciale par le gouvernement fédéral est survenue alors que les grèves tournantes organisées par les syndicats des travailleurs et travailleuses des postes se poursuivent à travers le pays. Le STTP espère pouvoir parvenir à une entente d'ici l'entrée en vigueur de la loi. Une contestation de la loi devant les tribunaux n'est pas exclue. Ce sera au comité exécutif national qui se réunit en fin de semaine de se prononcer sur cette question, a indiqué Mme Gélineau. Aux dernières nouvelles, le projet de la loi spéciale a été repoussé à lundi par les sénateurs. Au lendemain de son adoption aux communes, le projet de loi spéciale forçant le retour au travail des emplois de Postes Canada n'a pas été adopté samedi au Sénat. Une troisième lecture du texte est prévue pour lundi après-midi. Selon le représentant du Sénat, Peter Harder, ses collègues voulaient avoir plus de temps pour étudier le projet de loi et il a ajouté qu'il voulait aussi assurer la conformité du projet à la Charte canadienne des droits et libertés. C'était Munzundu Mwanonen pour CIUT 89.5 FM.
L'atelier des médias sur CUT 89,5 FM. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les étudiants de la cité collégiale.
Voici la revue des nouvelles du mois d'octobre et novembre 2018 à Toronto, dans la province de l'Ontario, au Canada et aux États-Unis. Le mois d'octobre dernier était marqué par les élections municipales et de la mairie de la ville de Toronto ainsi que des villes environnantes. En effet, le 22 octobre 2018, le conseil de la ville a connu son nouveau format de 25 conseillers municipaux au total au lieu de 47 autrefois. Pour la mairie de la ville Rennes, l'ancien maire John Tory a succédé à lui-même en battant sa concurrente Mme Jennifer Kesmat. Mme Bonnie Crombie a été réélu mairesse de Mississauga et Patrick Brown, élu maire de Brampton. Drew Dilkins, quant à lui, était élu à Windsor. Et John Watson, nouveau maire de la ville d'Ottawa, capitale politique du Canada. À Queen's Park, oui, à Queen's Park, à Toronto, la semaine passée, le nouveau premier ministre du gouvernement de l'Ontario, M. Doug Ford, suite au déficit budgétaire de l'ordre de 15 milliards de dollars lui concédé par le gouvernement libéral sortant de Mme Kathleen Wynne, a arrêté des mesures de grandes coupes budgétaires avec comme conséquence, entre autres, la suppression des divers services au détriment des Franco-Ontariens. Ainsi, le vendredi dernier 23 novembre 2018, suite aux pressions exercées par les autorités franco-ontariennes, le gouvernement de M. Doug Ford a reculé en rétablissant certains services en français, mais l'association ou l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, pour bien le dire, réclame plus et a diffusé ainsi cette nouvelle par Radio-Canada. Et les franco-ontariens ressentent face à cette volte-face du premier ministre de l'Ontario une manœuvre du statu quo. Au pire, un véritable retour en arrière et promettent ainsi des actions en perspective. S'agissant du gouvernement fédéral, Ottawa a arrêté une importante mesure sous forme de la loi et promulgué le 17 octobre 2018 la loi sur le cannabis. Cette loi met en place un nouveau cadre strict pour contrôler la production, la distribution, la vente et la possession de cannabis au Canada. Cette loi sur le cannabis a pour but d'empêcher les jeunes d'avoir accès au cannabis, de supplanter le marché illégal du cannabis. Et à l'étranger? À l'étranger, nous allons chez nos voisins aux États-Unis d'Amérique, où vous vous souviendrez, le 6 novembre 2018, il y a eu des élections de mi-mandat, 2 années après l'arrivée de M. Donald Trump à la Maison-Blanche à Washington. Les Américains, à cet effet, ont été appelés aux urnes pour renouveler les 2 chambres du Congrès, les 435 sièges de la Chambre des représentants et 1/3 de 100 sièges du Sénat, les chambres législatives locales et 39 postes de gouverneurs. Ces élections de mi-mandat ont tenu lieu de référendum sur les bilans de l'occupant de la Maison-Blanche. Les résultats étaient sans appel au niveau de la Chambre des représentants, qui a basculé complètement du côté des démocrates, tandis que le Sénat est resté sous contrôle des républicains. Comme d'habitude, le président Donald Trump avait rompu le silence dans une nuit en attendant les résultats en tweetant ceci, immense succès. Toujours aux États-Unis, une caravane humaine de plusieurs milliers de personnes a quitté le Honduras dans l'Amérique latine, se dirigeant ici vers les frontières américaines malgré les refus officiels de M. Donald Trump à les faire entrer sur les sols américains. Passant de la parole aux actes, Donald Trump a ainsi ordonné le déploiement de plus de 5 000 soldats armés en renfort aux gardes côtières afin de bloquer cette marée humaine à franchir les frontières américaines. C'est sur cette nouvelle américaine que prend fin cette revue de presse, cette revue de nouvelles, et je vous remercie pour votre aimable attention sur notre et votre chaîne francophone émettant à partir de Toronto. Et à la prochaine. Au revoir. Pour CUT 89.5 FM, Marius Massiba.
Atelier des médias, nous avons une dernière candidate. Nous sommes bien sûr avec les étudiants de la cité collégiale.
Merci bien et merci à mes collègues. Bonjour à tout le monde et bonjour Toronto, bonjour Ontario. Aujourd'hui, je parle de quelque chose de très important pour la communauté francophone ici en Ontario. Je parle, si tu me permets, de la santé mentale. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est parce que c'est très important et aussi il y a un grand besoin d'avoir beaucoup plus de services dans la santé mentale. J'ai aussi choisi ce sujet parce que il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas c'est quoi exactement la santé mentale. Je vais te parler un peu de la définition de la santé mentale. C'est presque un équilibre dynamique. Ça compose de plusieurs facteurs. Un facteur social, un facteur physique et un facteur spirituel. Aussi un facteur émotionnel et social. C'est pour ça qu'on doit parler de ces sujets ou sept sujets de la santé mentale. Aussi, ce n'est pas juste pour cette génération, c'est aussi pour les générations de la future. C'est pour les petits-enfants dans les écoles. Je vais donner des autres. C'est ma première fois, je m'excuse, je suis un peu nerveuse. Mais je vais te donner des autres raisons. C'est parce qu'aussi, on a juste un seul service en Ontario qui donne les services de santé mentale. Et ça, c'est pas suffisant parce qu'il y a presque 600 000 de gens en Ontario qui sont francophones. Et ça donne un encouragement pour des gens à parler de ce sujet ici. Aussi, j'ai une autre petite chose à dire. L'article de UNESCO, c'est l'article qui parle de la culture et aussi qui parle de la francophonie en général et les droits de la culture. Et l'article dit que toute personne doit ainsi pouvoir s'exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa langue maternelle. Toute personne a le droit d'une éducation et une formation de qualité qui respecte pleinement son identité culturelle. Toute personne doit pouvoir participer à la culture et à son choix et d'exercer son propre pratique culturelle. J'ai choisi cet article parce que ça donne une bonne image dans la raison pourquoi on doit parler de la santé mentale. Je veux dire merci bien à tout le monde et j'encourage tous les francophonies de parler de ça. Merci.
Merci, merci infiniment à Jimmy, à Patrick, à Marius et à Soumya, madame, monsieur de la cité collégiale. Vous avez aimé votre expérience? Et alors, vous avez un bon professeur, hein? Ça va? Vous êtes en train de noter en ce moment-là? Vous êtes en train de noter?
Je suis très fier.
Oui. Très bien. Alors, bravo. Merci. Je sais que ça demande beaucoup de recherche, d'intérêt aussi à la culture générale, mais aussi savoir faire de la recherche et aussi avoir l'éthique de la radio, du journalisme. C'est très, très, très important.
Et on veut remercier énormément l'émission Popourri, notamment son animateur Eric Kader de nous avoir reçus ce matin. Et raison de plus d'appuyer CIUT-FM, surtout que vous êtes en campagne de souscription en ce moment pour aller chercher des appuis. Donc, on vous encourage et on vous remercie.
Et vous êtes invité à passer des commentaires tout à l'heure sur ma performance et aussi la performance de notre ami technicien et aussi de tous nos invités. Nous avons un grand poète dramaturge qui nous attend dans la région de Gatineau, Ottawa, aujourd'hui à 12h30, Monsieur Stéphane Sénac. Vous allez voir, c'est quelqu'un. Et aussi notre grande amie, collaboratrice et analyste politique, elle est professeure et elle sera des nôtres. C'est bien sûr Stéphanie Chouinard qui nous écoute sur Internet à Kingston en ce moment. Le point de l'actualité avec RFI.
Si tu te plais, pardonne-moi. Si tu...
Et oui, madame, monsieur, le 2 décembre, dimanche dernier, à l'instar de plusieurs artistes d'origine haïtienne qui évoluent sur la scène canadienne et à Montréal en particulier, nous aurons le plaisir de recevoir la star de Montréal en ce moment avec sa nouvelle version, pardonne-moi, en version remix, Richie J, la semaine prochaine. La nouvelle star haïtienne à Montréal sera des nôtres. Nous remercions bien sûr notre partenaire KHL de Productions à Montréal qui nous écoute sur Internet. Et la semaine prochaine, ne ratez pas, c'est une émission à ne pas rater avec entre autres la journée mondiale de lutte contre le sida. On vous donne rendez-vous.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
CIUT 89.5 is the only community station left on the FM dial in Toronto. Thanks to our generous supporters, we continue to be the sound of your city. Don't worry if you haven't donated yet. There's still time to qualify for the round-trip ticket for two to Reykjavik, Iceland. You have until December 31st. Visit www.ciut.fm and click donate.
CIUT 89.5 Toronto. Jérôme Bastion.
Au sommaire de cette édition du dimanche 25 novembre 2018, Bruxelles et Rome en pourparlers intensifs pour éviter une procédure d'infraction au sujet du déficit excessif proposé par le gouvernement de coalition italien et pour éviter des sanctions économiques. En France, la mobilisation des gilets jaunes après une semaine d'action dans tout le territoire. La mobilisation semble s'essouffler au vu de la participation à la manifestation parisienne qui a dégénéré sur les Champs-Élysées. Vous entendrez la réaction d'un député du parti présidentiel, l'AREM. Pourquoi les banques françaises tournent-elles progressivement le dos au financement des énergies renouvelables malgré les engagements pris? C'est la question que pose l'ONG Oxfam dans un rapport à l'occasion des journées du financement pour le climat.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
Con Alexandre Hero.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça, ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Notre langue dans nos poches. Je vais chanter. Je vais chanter. Que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans. Je vais chanter. Je vais chanter. Pour mettre les accents là où il le faut. Se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur,
notre place aujourd'hui pour demain, pour un avenir meilleur,
donnons-nous la main,
ça vient du fond du cœur,
notre place
aujourd'hui pour demain, pour un avenir meilleur, donnons-nous la main.
Et oui, par voie de communiqué, Doug Ford, le Premier ministre de l'Ontario, confirme le retour du ministère aux Affaires francophones et à la création du commissariat aux services en français, mais au sein du bureau de l'Ombudsman. Les conservateurs ont aussi annoncé qu'ils consulteraient un expert en matière d'affaires francophones. Quant à l'Université de l'Ontario français, la ministre déléguée aux Affaires francophones, Caroline Mulroney, affirme, je cite, « J'attends avec impatience le jour où l'État les finances publiques nous permettra d'aller de l'avant avec des projets comme celui de l'Université de langue française, des projets qui contribuent à unifier la communauté et à protéger notre langue et notre culture. » Et elle a aussi ajouté, je suis une ardente défenseure de cette université pour et par les francophones. Devons-nous prendre au sérieux ces concessions, madame, monsieur, de M. Doug Ford et de sa ministre aux Affaires francophones? Est-ce que c'est sérieux tout ça? Notre invité qui a passé sur plusieurs plateaux de télé en anglais et en français, c'est l'héroïne, nous dit un internaute hier soir, docteur, professeur Stéphanie Chouinard, professeure adjointe de sciences politiques au Collège militaire royal, et ses recherches portent sur les régimes linguistiques, les droits des minorités, des autochtones, et le rapport entre droit et politique. Elle enseigne dans les domaines de la politique canadienne, de la politique comparée et de la géographie politique. Une femme extraordinairement talentueuse, intelligente, et elle parle très bien dans un instant. Et oui, bonjour, docteur Stéphanie Chouinard, ça va bien?
Oui, merci, vous-même.
Ah oui, malheureusement, nous avons la ligne qui griche, c'est pas très très clair. Hein. On va essayer à nouveau.
Oui, peut-être. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, mais on va vous rappeler, parce que justement, on n'entend pas bien. Alors, raccrochez, puis on vous rappelle immédiatement. Hein. Alors, je m'excuse pour cela. Alors, il y a aussi plusieurs juristes anglophones et francophones, bilingues, qui ont signé une lettre d'appui. D'ailleurs, c'était dans le journal Le Droit hier. Appui à Amanda Simard, députée de Glengarry Prescott Russell, d'ailleurs, qui rencontre Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, ça va mieux?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, justement, je parlais de Amanda Simard qui aura une réunion aujourd'hui à 13h et qui va rencontrer les gens de sa circonscription dans l'Est ontarien. Ce sera très intéressant de voir ce qui se passe. Et je parlais de ce... dans le journal Le Droit hier, il y avait cette lettre d'appui. Hein, un appui de taille de la part de plusieurs juristes anglophones et francophones. Et je pense que Madame Simard est très têtue, elle est frondeuse peut-être, mais elle va un peu à l'encontre de la décision de son parti, décision prise la semaine dernière pour couper les services en français et entre autres ne pas aller de l'avant avec l'université pour les francophones, mais aussi le commissariat aux services en français en Ontario. Alors, si la communication est bonne, j'aimerais vous saluer encore et vous souhaiter la bienvenue et vous dire merci de votre participation à cette émission. Il y a plusieurs personnes qui nous écoutent à travers la planète, entre autres de France, de l'Afrique, de l'île Maurice, à l'île de la Réunion, en Haïti, dans la région du Québec. On voit qu'il y a vraiment un engouement. Les gens sont vraiment, vraiment curieux de savoir comment se fait-il que les francophones rouspète ce pays si riche, ce pays qui est un peu un pays exemplaire, un phare pour le multiculturalisme, pour les peuples, ces peuples des fondateurs, comme on aime à dire, même si je ne suis pas très très d'accord avec ce terme, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier la participation, la contribution des autochtones qui étaient là bien avant les anglophones et les francophones, n'est-ce pas? Et donc, comment expliquer, Stéphanie, cet intérêt, même des journaux aux États-Unis comme le Washington Post, on a parlé de la situation de cette décision de M. Ford en Ontario. Est-ce que cela vous surprend?
L'engouement international et en français et en anglais dans la presse canadienne a été effectivement assez surprenant. On voit que la mobilisation s'est faite très rapidement et s'est faite entendre et évidemment là ça fonctionne puisque M. Ford a décidé vendredi de reculer un peu sur sa décision antérieure. Évidemment la mobilisation n'est pas terminée et il y aura plusieurs démonstrations publiques le week-end prochain dans 40 différentes villes de l'Ontario pour continuer à faire pression sur le gouvernement.
Et vous avez participé à un article, moi je vous suis hein, parce que je trouve ça tellement passionnant ce que vous écrivez, avec votre collègue Serge Miville qui est professeur adjoint, chaire de recherche et histoire franco-ontarienne à l'Université Laurentienne dans le nord de la province de l'Ontario. Et il y avait aussi Joël Bédose, qui ne le connaît pas, il est le directeur artistique du Théâtre français de Toronto, et vous dites, nous ne sommes pas dupes, Madame Mulroney, et on va y aller de l'avant avec cette manifestation. Donc, les concessions accordées aux francophones de l'Ontario de vendredi dernier, cela ne suffit pas, d'après vous?
Non, de toute évidence, la communauté a rejeté en bloc cette concession. Évidemment, on salue la décision de M. Ford de revenir sur l'énoncé économique de jeudi d'il y a maintenant deux semaines, mais les concessions ne sont pas suffisantes. Donc, d'une part, le projet de création de l'Université de l'Ontario français n'est pas remis sur les rails. D'autre part, on ne redonne pas au commissaire aux services en français sa pleine indépendance, même si on recrée le poste. Bon, du côté de la recréation d'un ministère de plein pied aux affaires francophones, évidemment, c'est une symbolique forte et la communauté est très heureuse de voir ce retour à un réel ministère, mais ce ministère-là ne sera pas affublé de plus de ressources que l'Office des affaires francophones qui existait. Donc, ce sont des concessions, somme toute, assez minimes.
Et je pense qu'il faut aussi distinguer entre le rôle de l'ombudsman et son mandat, ainsi que le rôle et le mandat du commissaire. Ces deux rôles, comme vous l'avez si bien fait à CBC News hier, bravo, et d'ailleurs c'était en anglais, je pense que c'est très important aussi d'être dans les réseaux anglophones pour passer l'idée, parce qu'il y a tellement une méconnaissance chez les anglophones, y compris les médias, certains médias anglophones, il y a une confusion. Tout ce que les gens pensent et regardent, c'est les gros sous, c'est le budget.
Mmh. Oui, donc, en fait, avec la remise sur pied d'un commissaire au service en français, même s'il est sous l'égide de l'Ombudsman de l'Ontario, ce qui est important de dénoter, c'est qu'à ce point-ci, il n'y a plus d'économie. L'argument de la bataille au déficit auquel fait face l'Ontario ne tient plus la route. C'est assez incompréhensible de voir pourquoi, si le commissaire retrouve son emploi, pourquoi le commissariat ne pourrait pas garder son indépendance. Et d'autre part, comme vous l'avez signalé, donc un commissaire sous l'égide de l'Ombudsman ne retrouverait peut-être pas ses pleins pouvoirs. C'est-à-dire que le mécanisme de réception des plaintes qui touche la loi sur les services en français serait maintenu, mais il n'est pas très clair que le commissaire pourrait continuer à faire son travail de promotion des services en français à l'intérieur de la fonction publique ontarienne. Et ce n'est pas non plus clair que ces employés pourraient poursuivre leurs travaux de recherche qui sont extrêmement importants pour comprendre l'efficacité de l'offre des services en français, notamment du côté de l'offre active. Et donc là, il y a encore une perte malgré le fait que le commissaire retrouve son boulot.
Et je pense que justement, les recommandations de M. Boileau, commissaire Boileau, ont servi à bon escient et a eu des retombées très bénéfiques pour la communauté francophone, entre autres dans le domaine de la santé. Et aussi, il était un peu un médiateur. J'aime pas tellement utiliser ce mot chien de garde parce que ça fait peur aux gens. Mais il était un médiateur. Il essayait de voir comment améliorer la situation et en donnant des avis, des conseils et à mettre tous les partis à la table pour voir quelles sont les meilleures façons avec les meilleurs moyens économiques toujours et qui rejoint, qui s'adapte aux réalités de la province de l'Ontario.
Tout à fait. M. Boileau était un fin diplomate et il savait très bien que le gouvernement préférait se faire conseiller de l'intérieur plutôt que de se faire taper sur les doigts en public. Et donc, M. Boileau faisait usage de ce pouvoir-là qu'il avait de consulter avec les hauts fonctionnaires dans les différents ministères, notamment, évidemment, dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de l'éducation, pour les sensibiliser à des meilleures pratiques, des meilleures façons de faire qui étaient parfois pas très coûteuses, en fait, et qui faisaient une grande différence pour la population franco-ontarienne.
Vous savez, il y a un article dans le journal La Presse cette fin de semaine de la chère dame qui n'aimait pas tellement les Ontariens ou les francophones hors Québec et qui aujourd'hui retourne sa veste pour dire que oui, Monsieur Doug Ford peut-être ne connaît pas l'histoire. Je ne sais pas si vous avez lu l'article de Madame Denise Bombardier. Et pensez-vous que justement ce gouvernement avait comme réfléchi, consulté les gens pour s'assurer qu'il n'y a pas justement ces malentendus et cette colère, c'est bien dire, c'est la colère qui grogne partout en province. Est-ce que vous pensez que ça a été vraiment bien pensé, bien réfléchi avant d'émettre des propositions ou encore ces coupures?
Je crois que le gouvernement Ford a été très mal conseillé lorsqu'il a publié son énoncé économique. Je crois qu'il a été pris par surprise, par la virulence avec laquelle on a dénoncé ces coupures-là. Et non seulement en Ontario français, mais on sait que le premier ministre du Québec, François Legault, a fait pression sur lui. Le chef des conservateurs au fédéral, Andrew Scheer, a aussi fait pression sur lui. Et pour Andrew Scheer, c'est extrêmement important que M. Ford revienne sur sa décision, puisque, bon, ces deux messieurs-là sont associés par la force des choses. et parce qu'il y a une élection fédérale qui arrive dans moins d'un an. Et M. Field sait très bien que les francophones, tant au Québec qu'à l'extérieur du Québec, vont se souvenir de cette décision-là. Et donc, énormément de pression sur le gouvernement Ford pour l'amener à changer d'idée. On voit que ça commence à fonctionner un peu, mais le travail, de toute évidence, n'est pas terminé.
Oui. Vous avez fait tellement d'études, il y a tellement de travaux que vous avez effectués, justement. J'aimerais tellement parler avec vous pendant très longtemps, mais j'aimerais replacer, surtout pour les nouveaux immigrants, pour les gens qui sont sceptiques un peu, pour les gens qui ne connaissent pas peut-être la petite histoire. J'aimerais replacer un peu tout ce qui est en train de se passer dans un cadre historique. Et je vais reprendre un article de Radio-Canada qui cite « Le gouvernement Ford a aboli le commissariat aux services en français. Il rompt de surcroît la promesse bien engagée de mettre sur pied une université française. » Parce que ça, c'était promis pendant la campagne électorale. On n'avait jamais mentionné qu'il y aurait des coupures, n'est-ce pas? On s'entend. Alors, ce qui réitère sous un jour nouveau les principes de l'assimilation par l'éducation, en poussant les francophones à étudier, faute de mieux, dans des universités anglophones ou bilingues, comme on dit, là où ils se retrouvent toujours en situation minoritaire. La formation, l'éducation et la culture assurent l'avenir d'une société. On le sait depuis longtemps, du moins hors Québec, là où le combat pour un meilleur système d'enseignement ne se réduit pas à la seule incantation répétée des vertus de la maternelle pour les enfants de 4 ans, à la mise en application du triste règlement 17 en 1913, l'anglais devenait en Ontario la seule langue d'enseignement dans toutes les écoles élémentaires. L'affaire sera dénoncée par Henri Bourassa dans les pages du journal Le Devoir, comme un autre reflet éclatant du colonialisme. Bourassa, on le sait, fut menacé d'être lynché. Henri Bourassa, décédé le 31 août 1952 à Montréal, était un journaliste, un homme politique québécois. Député, il était actif, autant sur la scène politique canadienne que québécoise. Fondateur du quotidien Le Devoir en 1910, il a été un ardent défenseur de l'indépendance politique du Canada par rapport à l'Angleterre, un intellectuel catholique s'opposant avec zèle et de manière rationnelle à la conscription et participation des Canadiens français à la Première Guerre mondiale et, en général, un défenseur des droits politiques, linguistiques et religieux des Canadiens français. Il fut menacé d'être lynché. Avec toutes les menaces, Stéphanie, qu'on voit déferler sur les réseaux sociaux, le harcèlement qu'on assiste ces jours-ci contre les francophones au Nouveau-Brunswick, en Ontario. À Ottawa hier, j'ai appris qu'il y a un jeune francophone qui s'est fait tabasser par un anglophone. On nous dit régulièrement « speak white, move to Quebec ». Et plusieurs disent à haute voix qu'ils sont d'accord avec les mesures de Doug Ford. J'ai des amis anglophones, croyez-le ou pas, qui trouve que c'est normal et c'est très important que Doug Ford ne finance pas cette nouvelle université. Je pensais que c'était des amis, je pensais que c'était des gens qui nous comprenaient. Et ils trouvent que pour des raisons économiques, Doug Ford a tout à fait raison de ne pas financer cette université, que les gens aillent au Québec s'ils veulent avoir une éducation uniquement en français. Comment éviter des dérapages, Stéphanie? Parce que c'est un peu grave ce qu'on est en train de vivre.
Oui, et c'est d'autant plus important justement d'avoir cette discussion-là avec des membres de la communauté majoritaire, parce qu'au bout du compte, le jour d'une élection, ce sont eux qui ont un gros bout de bâton et non pas les membres de la minorité qui, hormis dans des circonscriptions comme celle de Mme Simard dans Prescott Russell, la minorité ne penche pas très fort dans la balance. C'est important de sensibiliser la communauté et souvent d'utiliser des faits acquis peut être utile. Comme par exemple, lorsqu'on parle de l'Université de l'Ontario français, et on peut leur faire comprendre que la 9e à la 12e année dans les écoles du centre-sud-ouest et du Grand Toronto, c'est 20% de la population qui quitte les écoles francophones pour le secteur anglais. parce que ces étudiants-là savent très bien qu'ils n'auront pas les moyens d'aller à l'Université d'Ottawa ou à l'Université Laurentienne parce que ça coûte trop cher et donc ils veulent rester plus près de la maison et passent au secteur anglais en prévision de s'inscrire à une université anglophone. Alors que lorsqu'on regarde les chiffres au niveau primaire, nos écoles explosent en ce moment. Toutes les écoles du Grand Toronto fonctionnent soit à capacité ou à plus que capacité, parce qu'il y a trop d'inscriptions de petits francophones qui cherchent à aller à l'école française. Donc, d'une part, il y a un clair besoin et il y a un manque d'accès. D'autre part, cette université de langue française-là ne serait pas ouverte qu'aux francophones de langue première. Les jeunes anglophones qui vont à l'immersion, et on sait que ce sont des programmes qui ont énormément de succès, seraient aussi évidemment invités à s'inscrire à cette institution-là et à poursuivre leur éducation en français. Donc, il y a un besoin évident. Malgré les coupures, comme vous l'avez dit, c'était une promesse de Mme Mulroney, M. Ford, d'aller de l'avant avec la création de cette université-là. Et c'est une revendication qui date des années 1970. Ce n'est pas une revendication qui est arrivée du jour au lendemain là, au sein de la population franco-ontarienne.
Et la ministre Mulroney, qui a tardé à réagir, d'ailleurs elle n'était pas à la Chambre quand on a eu cet énoncé économique, finalement, elle a parlé aux médias, elle essaie de parler aux francophones, y compris à M. Jolin de la FAO, mais on sent qu'elle est mal à l'aise dans tout ça. Et on sait que son père, M. Brian Mulroney, qui était Premier ministre du Canada, a sans doute, c'est ce que j'ai appris d'après mes contacts, parce que j'ai des antennes, M. Mulroney a joué un rôle de médiation entre Doug Ford et le caucus pour leur dire que ça va avoir des répercussions très négatives sur le parti. Et je pense que c'est ça qui peut-être a fait renverser la vapeur en recréant le ministère des Affaires francophones. Mais on voit bien, d'après l'entretien que nous avons eu ce matin, M. Jolin, Carole Jolin, ne baisse pas les bras parce qu'il veut qu'on revienne à ce qui existait avant et aussi aux promesses pour la nouvelle université. C'est bien ça, n'est-ce pas?
Exactement.
Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Parce que là, on voit dans le caucus, il y a 7 personnes que j'ai appris qui sont pas mal fâchées face à M. Doug Ford, parce qu'il y a un groupe, groupuscule autour de lui, pour ne pas les nommer les gens qui sont de la génération Ford Nation, comme on les appelle. Et ces gens-là sont très, très, très anti-francophones, très, très anti tout ce qui est minoritaire dans la province de l'Ontario. Et beaucoup parlent même peut-être de siéger en indépendant. Et d'ailleurs, on verra bien la décision que Mme Simard va prendre bientôt. Mais pensez-vous que ça va avoir des répercussions pour le gouvernement même de la province de l'Ontario?
Oui, donc c'est certain que si 7 des députés du caucus conservateur décident de claquer la porte et de siéger soit comme indépendant ou de passer dans les rangs des libéraux, ça va envoyer un message très fort qu'il y a effectivement du mécontentement et que pour une certaine partie de la population progressiste, conservatrice, les décisions qui ont été prises ne sont pas acceptables. Et donc, il reste à voir si les rumeurs qui circulent sont vraies, mais il est certain là, que pour M. Ford, c'est embarrassant de voir qu'il y a autant de dissensions parmi ses rangs.
Comment expliquer aussi l'intérêt des médias anglophones, y compris le Washington Post?
Comment on l'explique? Ben, il faut croire que la population a fait assez de bruit.
Oui.
Je crois que ça a été un effet domino, en fait. Dès les premières mobilisations communautaires, on a vu les journaux francophones ici en Ontario français, je pense notamment au droit, mais aussi au Québec, Le Devoir, La Presse, Le Journal de Montréal, ainsi que les journaux anglo-montréalais. Mm-hmm. Par exemple, The Gazette qui a fait une sortie assez directe tout de suite là, le lendemain de la décision de M. Ford pour dénoncer cette décision-là. Et donc, d'avoir mis la puce à l'oreille de la population anglophone de cette façon-là, je crois que ça a eu un effet sur les médias anglo-ontariens. On sait aussi qu'il y a un chroniqueur québécois qui a passé un message pas très subtil à ses collègues journalistes en Ontario anglais, mm-hmm. M. Patrick Lagacé, qui a écrit une chronique pour dénoncer le fait que cette nouvelle-là n'était pas couverte, qu'il n'y avait pas beaucoup d'outrage dans les médias anglophones et que c'était dommage parce que c'était des coupures qui étaient importantes et qui allaient avoir un impact sur tous les Ontariens.
Oui.
Et ça, encore une fois, c'était important de le mentionner.
Et
donc,
faites...
j'étais en aiguille comme ça.
Oui,
exactement. Ça a créé un mouvement.
Et nous avons parlé avec nos gens, nos amis, nos collègues à Radio France Internationale. Il y a un article qui est sorti hier soir et même en Afrique, on reçoit des courriels. C'est très intéressant et vous faites un travail de titan avec tous vos collègues. On est avec vous. Vous êtes avec nous, Stéphanie Chouinard. Nous allons suivre tout ça de très près. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et ce que j'aime, c'est que vous jonglez avec les deux langues. C'est ce que j'aime. C'est ça le Canada. Et hier, vous avez fait vraiment une très belle entrevue avec les gens de Radio-Canada, CBC. Et je sais aussi que vous êtes dans les médias francophones assez régulièrement et je suis à vos articles. Allez, vous pouvez lire les articles de Stéphanie Chouinard, professeure adjointe de sciences politiques au Collège militaire, qui écrit régulièrement avec d'autres collègues dans le journal Le Devoir ou Le Droit. Et peut-être un jour, vous serez une animatrice de télévision ou de radio. Hein, vous avez pensé à ça?
Ah, j'aime beaucoup le milieu de la recherche. Mais merci pour vos bons mots, c'est très gentil de
ça. Merci mille fois. Et puis, samedi prochain, le 1er décembre, on dit hashtag nous sommes, nous serons, comme dit M. Carole Jelin. Et j'espère que vous aussi, vous allez manifester dans votre région du pays. À bientôt, Stéphanie. Merci encore.
Merci.
Au revoir.
Je vais chanter. Que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans, je vais chanter. Je vais chanter. Mettre les accents.
Pour mettre les accents.
CIUT 89.5 Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89.5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.potpourrishow.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Si tu veux pas...
Et oui, madame, monsieur, dimanche 2 décembre, à ne pas rater, à l'instar de plusieurs artistes d'origine haïtienne et évoluant dans le milieu culturel et artistique en terre étrangère et entre autres à Montréal, Canada. Richard Verdieu, mieux connu sous le nom de Richie J,
sera avec nous pour lancer son nouvel album, nouveau single, Pardonne-moi, en version remix que vous entendez en ce moment. Richie J, la semaine prochaine, ne pas rater, la nouvelle star haïtienne à Montréal. Notre partenaire à qui nous disons merci, c'est KHL Productions. Dimanche prochain, Richie J, star de Montréal, Toronto, avec nous. Oui, comme à chaque année, Potpourri Show s'associe avec plusieurs partenaires à Toronto, Canada et à l'étranger pour vous présenter une émission spéciale, édition spéciale, dimanche prochain dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida célébrée à travers le monde le 1er décembre. Le thème de cette année, connais ton statut, afin de mettre en lumière la manière dont l'éducation complète à la sexualité aide les jeunes à prendre des décisions plus saines pour leur vie, y compris celle de connaître le statut zérologique VIH. Selon les estimations, 14% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne savent pas qu'elles en sont atteintes. Dimanche prochain, 2 décembre, on en parle avec plusieurs invités, nos partenaires de Paris, de l'Afrique, de Toronto, de Montréal. Si vous souhaitez y participer, popourri@cut.fm. Dimanche prochain, Journée mondiale de lutte contre le sida.
Sur quelle planète suis-je tombée ?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Eh oui, Potpourri Show est fier de s'associer à la maison Les Éditions Prises de Parole pour vous présenter un nouveau recueil poétique. Longtemps, j'ai porté mes deuils comme des habits trop grands. Un rendez-vous peut-être un peu intime, ça promet, je pense. L'auteur de cette belle poésie est poète, dramaturge, romancier, nouvelliste. Il a fait paraître une quinzaine de livres, dont Du chaos et de l'ordre des choses, prix Trillium, et La beauté, finaliste au prix du gouverneur général, tour à tour agent de communication, journaliste, chroniqueur, éditeur, rédacteur en chef, professeur au collégial et traducteur. Il a dirigé les éditions Interling et la revue Liaison, qu'on connaît bien, avant de fonder sa boîte de services linguistiques et de communication. Et après un passage remarqué en politique municipale, il est aujourd'hui à la tête de Vision Centre-Ville, une association commerciale qui œuvre à la revitalisation du centre-ville de Gatineau. Il tient une chronique d'humeur à l'émission Les Matins d'ici sur les ondes d'ici Radio-Canada Première. Longtemps, j'ai porté mes deuils comme des habits trop grands aux éditions Prise de Parole. Mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir, je pense, la première fois, le poète romancier, grand défenseur du patrimoine culturel, Stéphane Sénac. Ah oui, les gens vous applaudissent, hein? Tapis rouge, s'il vous plaît. Bonjour Stéphane et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Éric, merci beaucoup de m'inviter.
Oui, alors vous aussi vous êtes un homme de radio, vous êtes un homme de culture, grand défenseur du patrimoine culturel. Mais on ne vous a pas lu ces derniers temps, vite trépidante.
Un long silence, disons. Ouais. Une quinzaine d'années sans publier et là je suis de retour et... Je travaille déjà un nouveau, je dépose aussi un nouveau manuscrit cet automne. Donc, les vannes de l'écriture se sont rouvertes après une quinzaine d'années de silence, en fait, du temps consacré à faire autre chose. Mmh. Mais je j'ai pas publié, sauf que évidemment, je continuais d'écrire, mais disons de loin en loin. Mmh. Et là, je m'y suis remis avec ce livre qui paraît, qui vient qui est un livre qui marque pour moi un peu une renaissance littéraire, mais une renaissance tout court, je vous dirais aussi, après des années un peu plus difficiles.
Oui. En lisant votre recueil de poésie, j'ai eu beaucoup d'émotions, personnellement. Il y a un côté spirituel, un côté mystérieux. On dirait que vous avez perdu un ami ou des amis, des êtres chers. Et cet exercice est comme une libération pour vous. D'ailleurs, ça m'a fait penser à la chanson « Tuer mon autre » de Lara Fabian et du regretté Moran, que peut-être vous connaissez.
Oui, bien sûr, absolument.
Pourquoi cette 15e publication que vous signez traite en premier lieu du vrai deuil?
Ben, de fait, c'est, je vous parlais des années un peu plus difficiles, donc elles ont été ponctuées par ça, par la perte d'amis très proches, morts prématurément, parfois dans des circonstances très tragiques. On parle de mort par suicide. Mmh. En 2011, j'ai perdu Robert Hierjou, qui était mon ami, mais qui avait d'abord été mon professeur à l'université, ensuite mon éditeur chez Au Nordir, où j'ai publié l'essentiel de mon œuvre, et puis un collègue quand j'étais dans le monde de l'édition, mais c'est devenu un ami, et puis sa mort remet beaucoup de choses en moi. Évidemment, ça nous place toujours devant notre propre fragilité, notre propre finitude. Et donc, ce livre-là, quand je me suis mis à l'écriture, je me suis rendu compte qu'il s'en dégageait une trame. La dernière chose que j'ai trouvée, c'est le titre. Alors, j'ai travaillé sur un projet sans trop d'idées, juste en me laissant aller comme ça, puis je me suis rendu compte que j'étais en train de fabriquer quelque chose, donc qui est un... Je dirais davantage, je le souhaite en tout cas, un recueil de poésie plutôt qu'un recueil de poèmes, mais je fais la nuance parce que c'est qu'il y a un projet derrière ce livre-là. C'est pas une collection de poèmes épars, c'est vraiment des poèmes qui me permettent d'aborder les émotions que j'ai vécues, d'essayer de les rendre sans être trop dans le premier degré, mais sans être trop non plus dans l'abstraction. Donc, je pense que c'est vraiment un recueil de poésie qui est assez facile à lire et qui, je le dis souvent, pour moi, la poésie, c'est un peu comme se retrouver devant un tableau. Il y a quelque chose. Si on voit une œuvre visuelle qui nous parle, qu'on aime, c'est difficile de dire qu'est-ce qui fait qu'exactement qu'on accroche à ce tableau-là. Est-ce que c'est la composition? Est-ce que c'est les couleurs, les coups de spatule ou de pinceau? Est-ce que c'est le fait que ce soit abstrait, que ça évoque des choses chez nous, chez soi, dans l'intime? Donc, le poème, c'est un peu ça pour moi. Et les gens qui lisent ce livre-là, ben, ils vont épuiser ce qu'ils veulent bien, ils vont s'associer à certains des poèmes plus qu'à d'autres. Donc un livre de poésie, ça ne vient jamais avec des clés de lecture. Les clés de lecture, elles sont en chacune des lecteurs, et c'est à eux donc de compléter l'œuvre en le lisant. Ben, c'est ce qui se passe, je crois. Donc c'est un livre pour moi extrêmement important parce qu'il m'a permis non seulement de faire la paix avec mes morts, mais la paix avec moi-même, je dirais.
Longtemps, j'ai porté mes deuils comme des habits trop grands de Stéphane Sénac, qui est avec nous, madame, monsieur. C'était aux éditions Prise de Parole. Est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez pas su dire ou pu dire à ces êtres chers lors de leur vivant?
Oui, toujours. Ça, c'est clair. Sans tomber dans la culpabilité ou sans tomber dans le pathos et de se dire j'aurais dû. Alors, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Il faut parler aux gens qui nous côtoient comme... Il y a quelque chose qui ne tient pas nécessairement de l'urgence, mais de se souvenir que tout le monde a une fin. Et on ne sait pas c'est quand, heureusement, parce que sinon notre vie en serait infernale, hein, traitée de manière infernale. Mais je pense que c'est un peu ça. Je suis dans un chemin, je vous dirais, ces 5 dernières années, j'ai emprunté un chemin où... tranquillement, j'essaie de marcher vers la lumière et je dis, c'est pas mystique, mais il y a un côté spirituel, effectivement, oui. Dans le livre, tout à fait, je vous le concède, c'est que il y a cette espèce de réflexion sur soi, mais sur notre rapport à l'autre, avec le fameux A majuscule, là. Hein, on est dans l'altérité, donc...
Et chacun, chaque personne à l'écoute, vous pouvez, madame, monsieur, avoir ce livre entre les mains, vous allez y découvrir quelque chose qui reflète vos angoisses, vos peurs, mais aussi vos attentes, vos désirs. On se retrouve, tout le monde se retrouve dans vos textes.
Je le souhaite.
Et moi, le texte où je me suis retrouvé, marcher au milieu du tumulte.
Oui, qui est le texte liminaire qui ouvre le recueil, en fait. Et qui est un texte, enfin, je me plaçais dans la peau de quelqu'un qui a perdu un être proche. Donc, c'est moi, c'est vous, c'est, ça nous est tous arrivé, tous et toutes. Et donc, on parle évidemment des deuils, hein, des grands deuils, des pertes de gens qui sont décédés, mais il y a aussi tous les autres deuils de la vie. On est confronté à plusieurs deuils dans notre vie.
Et vous savez, quand dans certaines cultures, parce que nous avons des gens qui nous écoutent en Afrique ou dans d'autres pays où il y a des traditions, et quand une mère perd son fils qui est bien, bien plus jeune, ou quand un ami perd son ami qui est bien, bien plus jeune que lui, les gens n'arrivent pas à accepter ce fatalisme. Parce que pour eux, dans leur culture, dans leur tradition, il faut être âgé, vieux. Là, on peut mourir. Mais on ne peut pas parler de la mort ou voir quelqu'un mourir à la fleur de l'âge.
C'est difficile, en fait, même pour nous. Hein, mais je pense que c'est... Il y a des pays, vous avez raison, où la tradition est mieux ancrée. Mais je pense qu'il n'y a personne qui veut survivre à ses enfants ou aux plus jeunes. Hein. Quand on parle... Bon, pour nous, c'est souvent nos enfants, mais dans un village... On dit qu'en Afrique, ça prend un village là, pour élever un enfant. Donc, l'ordre des choses veut que ce soit les plus vieux qui partent en premier, bien sûr, mais évidemment, on n'est pas dans une justice immanente. C'est un monde où il y a des gens qui nous quittent, soit dans la fleur de l'âge, soit très prématurément, et les enfants qu'on perd aussi. Alors, il y a tout ça qui fait qu'on... Je pense que c'est... Comment on fait, au fond, on se rend compte, c'est ce qui m'est arrivé, que c'est le temps qui fait son œuvre. Et on n'oublie pas les gens qui sont partis.
Jamais.
On n'accepte pas nécessairement leur départ, mais on n'est pas non plus dans un refus, dans la négation. Je pense qu'il faut rester indigné d'avoir été privé de ces gens qui ont compté dans notre vie. Et il faut prendre soin de ceux qui restent, parce que vous savez, quand on se réunit, puis vous l'avez vécu, je l'ai vécu, tout le monde l'a vécu, quand on se réunit autour des funérailles de quelqu'un, on fait cette fête, au fond, pour célébrer la mémoire de la personne qui nous a quittés, mais on fait surtout cette fête pour les vivants qui restent. Alors, je suis dans cette lumière-là aujourd'hui, je vous dirais, en tout cas, j'essaie de m'en rapprocher, qui est, on est constitué de ce qu'on a vécu, on parle de nos morts, mais on s'adresse aussi aux vivants. Alors, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Oui. On n'est pas dans la catastrophe non plus. Depuis que le monde est monde, on sait qu'on a une fin. On apprend ça à quoi? 8 ans, 10 ans, quand quelqu'un meurt, quand un grand-parent meurt dans la famille. Bon. Et après ça, ben, le reste de notre vie, c'est un long chemin vers ça. Ce qui fait qu'on n'a pas à être triste, inquiet, angoissé de tout ça. Ça fait partie de la vie, bien sûr, mais je pense qu'il faut juste en prendre conscience. Et puis, moi, ça a été ma manière un peu de... C'était pas une thérapie, ce livre-là, mais ça a été une manière de témoigner de ce que j'ai vécu à travers le filtre de la poésie, qui est vraiment, pour moi, le premier des arts littéraires auxquels je me suis adonné, qui demeure... la poésie je suis un grand lecteur de poésie, et la poésie me nourrit parce qu'il y a un effort que je dois faire comme lecteur quand je suis devant un poème, qui n'est pas d'essayer de le comprendre comme si je devais résoudre un problème mathématique, mais plutôt de me laisser toucher par ce qui est évoqué là-dedans, et que, au fond, peu importe ce qu'a voulu dire l'auteur, c'est ce que moi j'en retire qui compte.
Stéphane Absenac, longtemps j'ai porté mes deuils comme des habits trop grands, et avec votre permission, je vais lire un court texte pour les auditeurs. Marcher au milieu du tumulte.
Je vous en prie.
Il y a d'abord le mouvement des néons sur tes seins cathédrales, le miel de la lune qui dissipe son inquiétude, et moi, genoux en ces jardins, les mains dans la terre, je creuse et me brise les ongles sur mes origines. Chaque racine me rappelle que j'habite un pays étranger. Tu sais, pourtant, que l'eau et le silence coulent si loin de moi que je ne peux pas m'irer, m'y boire. Pour pallier la catastrophe imminente, tu m'inondes de clarté. Tu épuises l'amour à refaire avec lui la vie. Tout est là et rien n'y est. La soupe chaude le chant des oiseaux, mon corps vidé de ses peines, le monde qui continue de tourner et les efforts d'une vie qui ne suffisent pas à contenir sa chaleur, je voudrais croire qu'il est possible d'aimer et de connaître sans révérence. Il y a aussi un autre texte à la fin. Vous dites « Je ne suis plus au centre d'aucun univers. Personne n'attend mon prochain livre. Je sais maintenant que la mort n'est pas d'actualité. » Il y a dans le détachement une lucidité rassurante, des moments qui confèrent presque à la grâce si près qu'on peut la sentir. Cela me suffit, ce théâtre d'ombre à l'intérieur de soi. C'est très fort comme texte.
Ah, merci. Merci. Je sais pas où, quand on se relit parfois, on se dit, OK, j'ai été touché par cet instant où je suis rentré dans un texte et je me suis laissé guider aussi par l'écriture. Il y a un moment où on a l'impression que c'est plus nous qui écrivons. C'est l'état dans lequel on s'est mis. Et puis, ça arrive parfois quand je me relis que je me dis, OK, ça, c'est quand même assez solide. Et puis, voilà.
J'ai lu aussi, vous avez donné beaucoup d'entrevues. Hein. J'ai vu quelque part, vous avez dit, la vie est un cycle et la mort est devenue source créative. C'est drapé des couleurs du deuil, bouleversé par le vide laissé, par la disparition de plusieurs êtres chers, que vous, l'auteur, s'est vu renaître. Il planche d'ailleurs sur un nouveau manuscrit qui progresse très bien. Et vous avez dit, comme vous l'avez cité tout à l'heure, je suis devant un poème comme devant un tableau. Ça suscite de l'émotion. Pourquoi ? Difficile de mettre le doigt dessus.
Oui, oui.
C'est tellement bien.
Ben, je pense que ce qu'il faut, c'est que les gens se laissent toucher par la poésie. Mmh. Je les invite à ouvrir ce livre ou d'autres. Hein. Il y a, évidemment, à retourner vers les classiques. Je pense que c'est une source intarissable de beauté, d'éblouissement, d'indignation. Tout y est. Hein. C'est, de toute façon, il y a que quelques grands thèmes. Hein. La vie, la mort, l'amour entre les deux et ce qu'on en fait.
Et alors, pour terminer, voilà. J'aimerais qu'on parle un petit peu. On reçoit beaucoup de courriels. Hein. Les gens apprécient beaucoup votre passage à l'émission. Je ne peux pas tous les lire. Et avec tout le brouhaha qui se passe dans la francophonie de l'Ontario, comme vous savez, on est bombardé hein, de courriels de France, Radio France Internationale, de Québec, de Montréal, Monsieur Labaume, Maire Labaume à Québec. Vous, en tant qu'écrivain, auteur, poète, vous êtes un militant aussi, hein, parce que vous faites quand même beaucoup pour le préserver, le patrimoine culturel. Est-ce que cela va avoir un impact à long terme pour les jeunes écrivains, les jeunes qui veulent se lancer dans la culture ici en Ontario?
Je vous dirais, moi j'ai pris ma chronique de vendredi, donc avant-hier, ma chronique s'intitulait « Je suis franco-ontarien » parce que je suis un franco-ontarien d'adoption, mais je pense que dans les moments où, comme ce qu'on vit présentement en Ontario avec Doug Ford qui coupe unilatéralement sans vraiment comprendre ce qu'il est en train de faire, il va se retrouver assez rapidement devant un mur de colère et d'indignation. Il y a un mouvement extrêmement puissant qui est en train de se lever. Mm-hmm. J'étais un peu inquiet. Je me disais, est-ce qu'on pourra recréer un mouvement aussi fort qu'à Montfort il y a 21 ans? Oui. Mais vous voyez, les médias sociaux vont nous servir. Je pense que ce sont des moments charnières. Quand il se passe quelque chose comme ça, ce que Ford s'apprête à faire à la francophonie, ce que ça crée, c'est que les gens serrent les coudes. Mm-hmm. Et là, on sera nombreux à monter au front. Ce qui va faire, qu'ils vont plier. Là. Ils n'auront pas le choix de reculer puis de changer des choses. Et au fond, c'est bon parfois de se faire gifler pour se rappeler que si on se tient, si on monte aux barricades, si on se défend, et Dieu sait que l'Ontario français, avec ses artistes, avec ses gens, ses leaders d'opinion, avec ses armées d'avocats, vous savez qu'il y a 41 juristes qui se sont réunis bénévolement pour donner un coup de pouce. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, moi, je vous dis que Ford devra reculer. Ford va devoir tenir compte du fait que cette communauté-là, elle est forte, ancrée, enracinée, mm-hmm. et fait partie de ce qu'est l'Ontario d'aujourd'hui et qu'on ne peut pas la balayer sous le tapis ou la gifler impunément. Et on ne peut surtout pas la comparer avec d'autres minorités qui sont des minorités culturelles.
Ça, c'était une très grande gaffe de sa part.
Ah, c'est terrible, c'est clair. Mais...
Alors, on sait aussi que vous avez été, quelque part, quelqu'un m'a dit, vous avez vous-même été harcelé, vous avez reçu des menaces à un moment donné, vous avez dû déclarer tout ça à la police. L'affaire est réglée maintenant, vous êtes
sérieux? Oui, c'est réglé depuis longtemps. Okay. C'était sur une chronique, mais ça, c'est les débordements des médias sociaux. J'avais fait une chronique sur il y a un règlement qui passe à Gatineau et qui vise à faire réduire les déchets ultimes, donc la quantité de déchets, de matières résiduelles que les gens peuvent mettre à la porte, au chemin, en fait, à la rue, là, pour la cueillette des ordures. Et bon, il y a des gens qui dérapent. Hein. Malheureusement, les médias sociaux, c'est ce que ça fait. Les gens n'écrivent plus une lettre à l'éditeur et doivent l'imprimer, la signer, la mettre dans une enveloppe, la cacheter. Alors, les gens écrivent, parfois appuient trop rapidement sur le bouton et ça mène à des débordements, comme on en voit beaucoup. Par contre, il y a aussi le côté dont je vous parlais. Les médias sociaux vont permettre une très grande et très puissante mobilisation sur des dossiers d'importance.
Très bien.
Mais par ailleurs, je pense qu'il y a des débordements. Mais c'est tout à fait dans la nature humaine.
Je vous remercie infiniment.
Comme on dit,
hashtag, nous serons la semaine prochaine, le 1er décembre, mobilisation monstre à travers la province de l'Ontario. C'était un grand plaisir pour moi personnellement et pour toute l'équipe de vous accueillir à l'émission. Longtemps, j'ai porté mes deuils comme des habits trop grands aux éditions Prise de Parole. Allez sur notre site www.popourichaud.com pour avoir tous les renseignements sur Stéphane Sénac. Merci mille fois et à la prochaine.
Merci.
Bonne chance.
Vous.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. La semaine prochaine, je vous rappelle que nous aurons aussi un autre et dernier écrivain de prise de parole qui sera des nôtres. Je remercie beaucoup Gilles Marchedon et ses étudiants, le professeur Stéphanie Chouinard, Stéphane Psenac, la maison d'édition Prise de Parole, Radio France Internationale, monsieur Carole Jolin. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une édition un peu spéciale sur la journée mondiale de lutte contre le sida. Ne pas rater, si jamais mais cela vous intéresse, vous envoyez un message à popourri@cut.fm. Merci DJ Devera et Sloane Ballant. À tout le monde, je vous dis, préparez-vous, sortez vos affiches, vos drapeaux franco-ontariens, samedi le 1er décembre. Nous sommes, nous serons.
Notre langue dans nos poches. Je vais chanter, je vais chanter. Que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans, je vais chanter, je vais chanter. Pour mettre les accents là où il le faut. Se lever, il faut célébrer notre place aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur,
notre place aujourd'hui pour demain, pour un avenir meilleur,
donnons-nous la main,
ça vient du fond du cœur,
notre place aujourd'hui
pour demain, pour un avenir meilleur, donnons-nous la main.
je vais chanter. Afin de pouvoir nous rapprocher d'ici jusqu'à Fouquier, je vais chanter. Pour ne plus avoir notre langue dans nos poches, je vais chanter. Que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans, je vais chanter. Pour mettre les accents là où il le faut, faut se lever, faut célébrer. Mettre les accents là où il le faut, faut se lever, faut célébrer. Mettre les accents là où il le faut, faut se lever, faut célébrer. Mettre les accents là où il le faut, faut se lever, faut célébrer. Notre place. Du fond du cœur, la place aujourd'hui pour demain, pour un avenir meilleur.